Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Louis Drillon, Cédric Fuentes et Julie Delabrosse. À la réalisation, Elisabeth Miro. Prise de son, Pierrick Monsigny.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Quatrième et dernier temps de notre périple sur les vagues de l'économie. Aujourd'hui, on s'intéresse aux espérances et aux défaillances de l'économie bleue. Jules Verne avait imaginé dans 20 000 lieues sous les mers des océans recouverts de turbines géantes captant l'énergie des courants, des marées et des vagues. L'humanité tout entière serait ainsi alimentée en électricité grâce à des câbles sous-marins autour desquels poissons, algues et coquillages évolueraient en toute quiétude. Une vision qui pourrait prendre forme avec l'essor des énergies maritimes renouvelables. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. La mer peut-elle être à la fois bleue et verte et nous offrir des énergies propres, capables de concurrencer le nucléaire et le pétrole? On en parle avec Romain Schum, chercheur au sein du programme Océan à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Sylvain Roche, doctorant en économie de l'innovation au laboratoire Greta de l'Université de Bordeaux, et Mathieu Colletter, docteur en écologie marine à l'association Bloom. À 14h50, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Alors, avec une vague de 50 cm, je peux aller jusqu'à...
Hé, Fred ! Mais qu'est-ce que tu fais ?
Je calcule la force des vagues, Jamy, pour savoir jusqu'où je peux aller avec mon surf. Tu sais qu'il y a une puissance terrible dans les vagues. Avec leur énergie, il paraît qu'on peut fabriquer de l'électricité. T'es au courant ?
J'en ai entendu parler. On va rejoindre Fred. Cette histoire d'énergie marine, ça va faire des vagues.
Bonjour Romain Schum, Sylvain Roche et Mathieu Colletter. Alors, ces énergies marines, ça va faire des vagues? C'est Jamy qui le dit. Sylvain Roche.
Oui, donc moi je pense que... Déjà, est-ce que vous savez la date de cette émission?
Ah, je n'ai pas cette information.
Parce que moi, il me semble que c'était en effet une émission qui date à peu près de 2007-2008. Et c'est vraiment, c'est vrai, l'époque où des projets émergent. Et le projet que fait référence Fred et Jamy, c'est le projet Pelamis. C'est un projet qui a été développé en Écosse et qui visait en effet à récupérer la force des vagues pour produire de l'électricité.
Alors on va voir évidemment plus en détail tout cela, mais Romain Schum, on peut dire qu'évidemment depuis une dizaine d'années, depuis que cette émission a été faite, il y a des progrès énormes qui ont été faits dans les énergies marines renouvelables.
Alors bonjour, je pense en effet qu'il y a des progrès énormes qui ont été faits et que parler de nouvelles vagues, c'est à mon avis un excellent concept. Qui évidemment fait face à ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire essayer d'aller au-delà des énergies fossiles et notamment des activités pétrolières et gazières offshore, donc des activités extractives en mer, qui ont connu un regain d'activité ces dernières années pour différents critères, on pourrait y revenir. Et donc l'enjeu maintenant va être de savoir si ces énergies marines renouvelables sont à même ou pas de porter la notion de la transition énergétique.
Toute cette question est là, Mathieu Colletter, est-ce que ça va permettre cette transition énergétique? On connaît mieux pour l'instant les énergies renouvelables comme l'éolien, comme le solaire. Là, on parle d'énergie marine renouvelable, il y a beaucoup d'espoir autour de ces énergies?
Il y a à la fois beaucoup d'espoir et beaucoup de questions qui entourent ces énergies, notamment à travers l'espace maritime qui est de plus en plus disputé, où on a des conflits d'usage et donc beaucoup d'activités entre la pêche, les différents types d'extraction, ces énergies marines qui arrivent aussi et dont on a des projets qui sont en train de planifier de se développer. Et donc voilà, on a toutes ces questions et qui suscitent aussi au niveau des différents acteurs, des pêcheurs et compagnie, des réactions aussi fortes.
Alors on va en reparler et revenir dans le détail sur tous ces points que vous avez soulevés. Mais avant d'en venir aux énergies marines en tant que telles, vous l'avez dit, Romain Schum, il faut dire que donc ces énergies renouvelables entendent remplacer, se substituer au forage offshore qui continue à se développer. Aujourd'hui, environ un tiers du pétrole et un quart du gaz naturel consommés dans le monde proviennent de gisements sous-marins, avec de lourdes conséquences pour l'environnement, Romain Schum.
Absolument. On a des activités pétrolières et gazières offshore qui vont avoir tout le long de leur activité, tout le long de la chaîne de valeur, des impacts autant sur l'environnement marin que sur la question du climat. Les activités pétrolières et gazières offshore, elles se sont beaucoup développées. Pourquoi ? Parce qu'on a eu accès à de nouvelles technologies qui ont pu permettre aux compagnies pétrolières de forer dans des profondeurs toujours plus importante. On a aujourd'hui des forages qui s'élèvent à 3000 mètres, si ce n'est plus. Et il s'agit là de records. Et donc, on a une sorte de... Les limites sont un petit peu repoussées sur cette question-là. L'autre point qui a fait que ces activités se sont beaucoup développées, et particulièrement là, ces derniers mois, c'est la question du prix du baril du pétrole, car il y a une logique de rentabilité, évidemment, économique. Aujourd'hui, avec un prix du baril qui est aux alentours des $60, les activités pétrolières, gazières offshore deviennent rentables. Et donc, ça relance l'activité. Sur la question des impacts, je vous rejoins parfaitement. La question qui se pose, c'est comment continuer à développer et à subventionner ces activités pétrolières et gazières face aux objectifs climatiques que la communauté internationale a acté suite à l'accord de Paris. Et aussi essayer de développer des bonnes pratiques qui permettraient de faire du pétrole de manière le plus durable possible et surtout en diminuant le plus possible les impacts sur l'environnement marin.
Alors les accidents en pleine mer peuvent avoir des conséquences catastrophiques, comme l'a montré l'exemple de Deepwater Horizon. Le 20 avril 2010, la plateforme de forage de British Petroleum explosait en plein golfe du Mexique.
BP et les autres pétroliers n'étaient absolument pas préparés à lutter contre une marée noire de cette ampleur, contrairement à ce qu'il disait. Donc les mesures de sécurité qui seront prises aux États-Unis dans les mois qui viennent, ou dans plusieurs mois, porteront sur ces trois aspects: réglementation plus stricte des opérations de forage, pour éviter ce qui vient de se passer, et qui était finalement un scénario assez classique. L'ampleur était exceptionnelle, mais le scénario de l'accident était assez classique. Deuxièmement, le fait de réviser plus fréquemment, tester plus fréquemment les équipements clés en matière de sécurité. Troisièmement, obliger les compagnies pétrolières à mettre en place des plans sérieux de lutte contre la marée noire. Car à force de considérer que ces accidents sont très rares, ce qui n'est pas complètement faux, le risque, c'est qu'on finit par penser que très rare veut dire probabilité zéro.
Voilà, on analyse le risque.
Et le problème, c'est qu'une probabilité très faible, mais un accident catastrophique, il faut y être prêt. Ni BP, ni les autres pétroliers, ni le gouvernement américain n'y était prêt. Et ça aussi, ça pose une autre question. Quelle sera dans le futur la répartition des responsabilités en cas de catastrophe nationale entre l'industrie pétrolière, le gouvernement fédéral, sans oublier, dernier élément, une meilleure réglementation de l'industrie.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, qui soulève beaucoup de questions. Quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de la catastrophe Deepwater Horizon au large des côtes de la Louisiane, Sylvain Roche?
Oula, moi je voulais quand même rebondir sur le boom quand même, de l'importance du boom des énergies marines, en effet qui répondent à des enjeux environnementaux, mais aussi quand même des enjeux économiques, parce que la crise pétrolière touche aussi directement l'emploi. Et c'est que le boom qu'on peut voir notamment dans les pays du Nord, que ce soit au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, c'est lié aussi à trouver un levier de croissance nouveau avec finalement la fermeture des plateformes offshore en mer du Nord. Donc il faut aussi, enfin, pas avoir une vision strictement nationale, mais aussi européenne, voire mondiale, sur cette dynamique d'émergence des énergies marines au début des années 2000. Hein.
Et sur cette question des enseignements à tirer de ce type de catastrophe, et notamment peut-être cette question de la responsabilité, Romain Schum peut-être?
Je pense qu'il y a en effet, ça a été très bien dit dans l'enregistrement, deux enseignements majeurs qu'il faut en tirer. C'est que cet événement qui a eu lieu sur la plateforme Deepwater Horizon en 2010, en avril 2010, elle a eu lieu dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire une région dans laquelle on faisait du pétrole offshore depuis très longtemps. Donc a priori on savait en faire. Et c'est BP, l'une des plus grandes compagnies pétrolières mondiales, qui a eu affaire à cet accident et qui n'a pas su, en effet, endiguer cet accident. Donc on voit qu'il y a, en effet, certains gouffres, certains manques dans la réglementation et dans la préparation des acteurs, même les plus importants et les plus équipés d'un point de vue technique et financier, à répondre à ces enjeux. Et ça pose la question, lorsque ces compagnies pétrolières ou même lorsque de plus petites compagnies pétrolières extraient du pétrole dans des pays, notamment en Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, car on en trouve beaucoup de gaz en ce moment, ça pose la question de la préparation de ces pays et de ces compagnies pétrolières à ces enjeux environnementaux.
Parce que ce qu'il faut dire, Mathieu Colletter, c'est que plus le puits est profond et plus la réparation s'avère complexe. En l'occurrence, là, il a fallu 87 jours avant de trouver une solution pour obturer le puits de la plateforme Deepwater Horizon.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est un coût énorme pour l'environnement. Et je pense que on revient à ça quand même. C'est-à-dire, on a des préparations, on a des activités qui sont faites. Et au final, on a un coût énorme pour l'environnement. Alors, est-ce qu'il a été quantifié? Est-ce que c'est comparable à ce qui est extrait? Donc voilà, ça, c'est des questions qui sont quand même assez importantes. Quel bénéfice on a économique, mais quel coût environnemental on a? Et ça rejoint fortement la question de ce développement, notamment en Afrique de l'Ouest, où on a des populations qui dépendent des écosystèmes marins pour leur survie. Au Sénégal, c'est 70% des protéines qui viennent du poisson. Et donc, voilà, on a quand même des questions énormes à la fois en termes de développement, en termes de choix de développement pour ces pays et de coûts environnementaux qui sont énormes par rapport à voilà des bénéfices économiques qui certes à court terme peuvent être très importants mais face à un accident peuvent parfois s'avérer assez faibles.
Ce qu'il faut dire peut-être pour finir sur cette question des plateformes offshore, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le type de risque lié au forage est à peu près le même sur terre et en eau profonde, mais ce sont les mesures de réparation qui sont nettement plus complexes en mer, Romain Schoum.
Les types de risques peuvent en effet être les mêmes. Les impacts sont différents parce qu'on impacte évidemment différemment la biodiversité marine que la biodiversité terrestre. Donc là, il y a des enjeux scientifiques différents. Là où c'est en effet beaucoup plus compliqué, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'agir en mer. On a parlé, enfin dans l'enregistrement, abordé la question des plans de réponse. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un cas de déversement d'hydrocarbures en mer est observé, toute une chaîne d'activités se met en œuvre qui mobilise l'État, les compagnies pétrolières, l'armée pour essayer d'endiguer cette marée noire. Et là, c'est des enjeux en effet techniques et logistiques énormes et beaucoup de pays, le Sénégal, la Mauritanie, sont en train de travailler sur ces enjeux-là. Mais pour le moment, on n'est pas prêt d'endiguer un cas de marée noire en Afrique.
Alors, face à ces sources d'énergie extrêmement polluantes, est apparu ce concept d'économie bleue. Que recouvre ce terme d'abord et d'où vient-il, Sylvain Roche?
Alors, le terme économie bleue, croissance bleue, il y a quand même une origine assez européenne, en fait. Il faut vraiment questionner l'agenda européen sur cette question. Et notamment, la période Barroso. Parce que c'est que Blue Crow, ça émerge véritablement à travers des enjeux géopolitiques au début des années 2000, qui a été repris par...
Barroso, qui est alors président de la Commission européenne.
Et qui a aussi beaucoup œuvré lorsqu'il était au Portugal pour que son pays se tourne vers l'océan. Et c'est vrai que cette question émerge dans l'agenda européen, notamment à travers des pays comme le Portugal et aussi le Royaume-Uni, notamment l'Écosse. Donc, nous, en France, il émerge véritablement, on va dire, en 2009, donc il y a 10 ans avec le Grenelle de la mer, où c'est vrai que c'est quand même une séquence politique a été portée par Monsieur Jean-Louis Borloo et qui a abouti à une prise de conscience que la mer était à la fois, certes, un vivier de croissance, mais aussi un enjeu environnemental assez important. Et c'est à partir de cette date où c'est vrai qu'on voit quand même une dynamique au sein des régions, au sein même des associations citoyennes, où l'océan prend une place majeure dans le débat.
Mathieu Colletter, l'économie bleue connaît ce regain d'intérêt après la crise de 2008 aussi parce que la mer apparaît tout d'un coup comme le nouvel Eldorado de la croissance.
Oui, c'est vrai que c'est aussi apparu dans des négociations internationales, notamment au sommet Rio+20, où les petits États-nations, les petits États insulaires du Pacifique notamment, ont pris en main ce concept parce qu'il n'y avait pas d'équivalent pour l'économie verte pour eux qui n'ont pas beaucoup de terres pour cultiver et où l'économie bleue est véritablement apparue comme une possibilité de développement. Et ce concept, dans l'idée de ces petits États insulaires en voie de développement, incluait non seulement un développement durable, mais aussi un concept d'équité sociale. C'est-à-dire qu'on doit avoir un développement qui répond aux besoins humains, qui permet à l'humain de se développer en harmonie avec la nature, et qui permet d'avoir des populations qui se développent humainement, socialement, économiquement. Et aujourd'hui, on voit que ce concept d'équité sociale est un peu effacé, et qu'on parle beaucoup plus d'un développement économique tel qu'on a pu connaître sur la Terre, avec des développements industriels énorme et qu'on perd un peu ce côté environnemental et ce côté social qui est très important.
Mais alors de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie marine? Parce qu'il faut dire qu'il y a toutes sortes d'énergie, l'énergie hydrolienne, l'énergie houlomotrice. Comment est-ce qu'on s'y retrouve au milieu de toutes ces énergies, Romain Schoum, Sylvain Roche?
Alors, c'est vrai que les énergies marines, c'est un panel composé de plusieurs filières, plus ou moins matures, à des stades plus ou moins avancés. Donc en effet, il y a l'énergie la plus mature, celle qu'on connaît le mieux en France, c'est l'énergie marémotrice. Le barrage de la Rance exploite cette énergie depuis 1967.
Donc il s'appuie sur l'énergie des marées.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est le système de barrage, en fait. C'est une filière qui découle directement des barrages hydroélectriques, en fait, du savoir-faire d'EDF à l'époque. Après, il y a l'énergie houlomotrice, c'est une énergie qui exploite la force des vagues.
L'énergie hydrolienne?
L'énergie hydrolienne, c'est les courants de marée. Donc, on parle d'hydroliennes océaniques, donc c'est plutôt des grosses machines ou des hydroliennes fluviales estuariennes, donc plutôt des plus petites machines. Il y a l'énergie thermique des mers. Donc, c'est une technologie qui est développée dans les outre-mer.
Et peut-être la plus connue, l'énergie aussi éolienne offshore.
C'est ça, offshore. Donc, il y a l'offshore posé, l'offshore flottant. Donc, l'offshore posé en Europe, le premier parc date de 1991. C'est un parc danois. Et actuellement, voilà, il y a des programmes assez ambitieux à l'échelle internationale, notamment en France, pour développer ce qu'on appelle l'éolien flottant.
Alors on va voir ça dans un instant, mais d'abord il faut peut-être dire que ces énergies représenteraient un potentiel immense qui n'est pas ou très peu exploité à l'heure actuelle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, le potentiel total des énergies dans le monde représenterait entre 20 000 et 90 000 TWh par an. En comparaison, la consommation mondiale d'électricité, c'est 16 000 TWh par an. Donc on voit qu'il y a un potentiel qui est absolument colossal, Mathieu Colletter.
Oui, bah avec tout l'espace maritime qui de toute façon est encore alors pas inexploité mais qui est disponible pour ces énergies marines, c'est évident qu'on
a. Et des énergies marines sont plus prévisibles peut-être que les autres énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. Robin Schum.
Est-ce qu'elles sont plus prévisibles ces problèmes? J'ai l'impression que l'enjeu et la question qu'on pose pour revenir un petit peu en arrière sur le concept d'économie bleue et de ces énergies marines renouvelables, l'économie bleue ne dit pas qu'on va développer ces énergies marines renouvelables. J'ai l'impression que l'économie bleue, c'est un concept qui est en fait relativement récent, comme on l'a dit, et qui est relativement flou et qui ne fait que désigner toutes les activités économiques, toutes les activités anthropiques qu'on a en mer ou sur les océans. Donc les énergies marines renouvelables, c'est en effet un potentiel en termes de développement et de transition énergétique et qu'il faut questionner. Mais il faut aussi questionner le contexte plus large de l'ensemble de ces activités et quels arbitrages on va faire entre développer les activités, les énergies marines renouvelables, la question encore du fossile qu'on a abordé, et d'essayer d'avoir peut-être une forme de gestion intégrée entre toutes les activités qu'on va avoir en mer.
Sylvain Roche.
Oui, moi je voulais quand même rajouter... Les énergies marines ont cette particularité de matérialiser cette croissance bleue. C'est vrai, dans un visuel, c'est beaucoup plus simple de se représenter une éolienne ou une hydrolienne que des molécules océaniques. Voilà.
Mais le concept est beaucoup plus large que ça.
Voilà, il est beaucoup plus large. Encore une fois, il émerge dans les années, au milieu des années 2000, dans un contexte de multicrise, en fait, de crise systémique, à la fois une crise énergétique, voilà, après l'invasion de l'Irak et un pic pétrolier assez important. Une crise économique, après la crise économique qu'on connaît en 2008-2009, et aussi une crise environnementale. Donc c'est cette crise systémique qui réellement relance les projets énergie marine à travers le monde.
Alors on l'a dit, en tout cas la plus connue peut-être de ces énergies marines, c'est sans doute l'éolienne offshore qui capte donc les vents marins.
Ça semble petit sur une carte, mais nous avons déjà installé au-dessus de 500 mégawatts en turbine dans cette zone. Et juste pour comparer, la centrale nucléaire de Doel 1 fait 400 MW de capacité de production. C'est énorme. Si on inclut les fondations, plus les turbines et les pales, on arrive à une construction d'au-dessus de 220 mètres, ce qui veut dire qu'on placerait l'atomium au-dessus de la cathédrale d'Anvers. On arrive à des dimensions énormes et donc ces pales prennent beaucoup, beaucoup de vent et donc produisent beaucoup d'électricité.
Voilà, Franco Hennen, le directeur Développe Belgique, l'un des pionniers de l'éolien en Belgique. L'éolien offshore s'est largement développé, vous commencez à le dire d'abord, en mer du Nord, Sylvain Roche.
Ah oui, tout à fait. Le premier projet le premier parc qui date de 1991. Donc en effet, c'est la mer du Nord pour des raisons à la fois politiques. Hein. Il y a vraiment une ambition de développer les énergies renouvelables au sens large dans ces pays. Et aussi pour des raisons, pour étant dire techniques, disons qu'il est beaucoup plus simple de faire de l'éolien en mer du Nord qu'en océan Atlantique. Enfin, les fonds marins ainsi chutent, donc c'est plus compliqué. Il y aurait d'autres raisons économiques aussi, l'importance des acteurs du oil and gas. Dans cette filière, c'est vraiment les acteurs du oil and gas qui sont la locomotive pour développer cette filière. Donc voilà, il y aurait d'autres explications, mais les trois grandes à retenir, ce serait celle-ci.
Donc le Danemark joue un rôle essentiel et il faut dire que c'est un producteur d'énergie danois, Ørsted, qui vient d'inaugurer en mer d'Irlande le plus grand champ éolien offshore du monde. Alors que la France, à côté, n'a aucune éolienne offshore en activité. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a un grand retard français dans ce domaine.
Ah oui, Sylvain Roche. Ah oui, en effet. C'est pas, pourtant, comment dire, les premiers projets en France ont été lancés à la fin des années 90, et notamment par les acteurs du oil and gas, que ce soit du côté de Dunkerque ou en région méditerranéenne. Des acteurs comme Shell et Total ont souhaité développer ces projets. Donc, voyant qu'il y avait une demande, l'État a répondu au travers des appels d'offres. Donc, il y a eu un premier appel d'offres qui a été lancé en 2004, qui n'a pas véritablement amené à grand chose. Puis après, il y a eu deux autres appels d'offres, donc en 2011 et en 2013. Et c'est vrai que là, on arrive bientôt en 2019 et les parcs n'ont pas été encore construits.
Et cela alors que la France bénéficie de nombreux avantages, notamment évidemment les 3500 kilomètres de côte, mais aussi de nombreux ports, un tissu industriel qui travaille dans des secteurs clés pour l'éolien. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce retard, Mathieu Colletter?
Bonne question. Non, je pense qu'il y a eu des difficultés en soi à travers les différents acteurs et sur les différents projets, à travers des comités qui ont pu se monter pour refuser l'implantation de ces éoliennes et qui ont considérablement ralenti les choses. Alors, bien ou mal, en tout cas, on voit que la concertation n'a pas débouché sur des accords, n'a pas débouché sur vraiment un consensus sur l'implantation de ces éoliennes. Et aujourd'hui, on a encore des difficultés pour faire ce consensus, notamment avec les pêcheurs au niveau de la Manche, en mer du Nord, où il y a eu pas longtemps, il y a eu quand même des grosses affaires où ils ont claqué la porte, notamment de ces négociations et de ces discussions. Et donc voilà, on retombe un peu dans des travers de concertation. Et est-ce que c'est possible de mettre les différents acteurs autour de la table et d'avoir un accord?
Romain Choum.
Oui, moi je pense qu'en effet, si on a pris du retard en France sur ces questions-là, c'est exactement ce que vient de dire Mathieu Colletter sur des acteurs qui avaient des agendas un petit peu différents. Et la question que posent les énergies marines renouvelables, c'est la question des conflits d'usage de la mer. C'est-à-dire mettre des énergies marines renouvelables en mer, ça a un impact sur le paysage. Et donc, potentiellement, certains riverains vont pouvoir exercer des recours parce qu'ils s'opposent à cela. Ça a un impact, en effet, sur le secteur de la pêche et sur la biodiversité. Et donc, la difficulté, c'est de prendre en compte tous ces intérêts qui peuvent paraître contradictoires par moment. Mais je pense aussi que c'est la preuve qu'on est un système démocratique qui fonctionne bien, car justement chaque acteur peut porter sa voix, peut porter son message, et qu'on n'avance pas tête bêchée dans une technologie sans prendre en compte l'intérêt de chacun.
Le problème, c'est que les éoliens offshore empiètent sur les zones de pêche, vous l'avez dit, et sont donc des sources potentielles de conflits.
Si nous, en bordure littorale, on subit d'autres nuisances parce que tout ce qui est la biodiversité littorale actuellement, elle est en évolution, la pollution des fleuves, la pollution des rivières qui se déversent en mer, tout ça, si vous voulez, on en est tous responsables, mais il ne faut pas s'en exclure et c'est la cause des activités humaines, il faut bien l'admettre. Enfin, pour tout vous dire, la Manche devrait, à terme, hériter des trois quarts du programme national. Alors, si vous voulez, c'est en plus, il y a derrière, si vous voulez, ce projet, et donc c'est toute la flottille, si vous voulez, qui travaille en Manche, qui, elle, s'interpelle, que ça aille du bateau de 20 mètres au bateau de 10 mètres et moins, tout le monde est interpellé, si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer, et comment vont se comporter les espaces, les migrations des poissons après cette implantation, et quelle réversibilité il y aura, si vous voulez, derrière ça, si on s'aperçoit que c'est une erreur, comment on ira retirer, si vous voulez, ces machines, une fois qu'on les aura plantés.
Le témoignage de Gérard Montassine, un pêcheur qui est donc opposé à un projet de parc éolien en mer. Et au mois de septembre, il y a encore eu 15 à 25 bateaux de pêche qui ont encerclé une barge de forage au large du Tréport en Seine-Maritime pour réclamer l'abandon d'un projet de champ éolien en mer. On voit que ces activités sont nécessairement amenées à entrer en conflit, Mathieu Colletter.
Oui, et puis c'est surtout la localisation de ces parcs. Et donc, c'est-à-dire les pêcheurs qui peuvent percevoir ces endroits comme des zones très poissonneuses, des zones où on pêche depuis des générations, et donc on a aussi un patrimoine culturel dans ces endroits. Et donc voilà, ça réveille bien tous ces conflits d'usage.
Parce que pour des questions de coûts, il faut peut-être préciser pour les auditeurs que les éoliennes offshore ne doivent pas se trouver trop loin des côtes.
Tout à fait. Et donc, face à ça, c'est vrai qu'au niveau scientifique, on a encore assez peu de recul sur les impacts de ces éoliennes. Il y a des études qui sont sorties, notamment des éoliennes qui ont été implantées sur les grands lacs au Canada, et donc voir quels pouvaient être les impacts en termes écosystémiques, donc des modèles qui ont été mis en place. Il y a des études d'impact qui sont faites sur lesquelles on a assez peu de recul. Et c'est vrai qu'au final, on ne sait pas trop si ces zones se rétablissent et si elles permettent des activités de pêche par la suite. J'ai eu l'occasion au Parlement européen, lors de la campagne pêche électrique qui continue, donc de discuter avec des pêcheurs anglais. C'est vrai qu'en Angleterre, il y a eu un développement assez important de ces parcs éoliens. Et les pêcheurs anglais décrivaient, alors de un, ils ont diversifié leur activité puisque certains d'entre eux s'occupent des éoliennes. Et de deux, ils décrivaient la chose suivante, c'est que pendant plusieurs années, il n'y avait pas de pêche possible. Et au bout de 4-5 ans, on pouvait faire de la pêche à la ligne, pêche au filet, et on recapturait du poisson. Alors toute la question, c'est est-ce qu'on peut avoir des connaissances solides là-dessus? Est-ce qu'on peut avoir des prédictions solides là-dessus? Est-ce que les pêcheurs peuvent être pris en compte dans cette gestion, indemnisés? Est-ce qu'ils peuvent prendre part au développement et compagnie? Est-ce qu'on peut diversifier les activités? Et donc là, voilà, c'est encore des questions qui sont ouvertes et sur lesquelles il y a besoin de discussion.
Sylvain Roche.
Oui, juste pour rebondir aussi sur pourquoi en France on a un retard. Et aussi, il faut questionner sur la singularité du modèle énergétique français qui est le nucléaire. On ne peut pas nier ces énergies pendant très longtemps, elles ont concurrencé par le nucléaire, par le prix du nucléaire en fait. Et c'est vrai qu'actuellement on voit aussi, on voit quand même que le prix de l'éolien en mer baisse énormément et l'éolien en mer devient compétitif face au nucléaire. Donc c'est aussi un argument qu'on ne peut pas nier qui est très important.
Romain Schum.
Oui, sur la question, pour revenir sur la question du conflit d'usage de la mer, je pense que ces conflits ils sont tout à fait normaux. Et probablement heureux quelque part. Mais du coup, ça soulève une question plus large, ça soulève la question de la responsabilité des politiques publiques pour créer un cadre de gestion rationnel et intégré sur ces questions-là. Pour prendre un exemple assez simple, l'Union européenne a adopté deux directives. Une première en 2014 qui porte sur la planification des espaces maritimes et qui vise cette notion de croissance bleue, donc de développement des énergies marines, de développement des ports, etc. Et en parallèle, l'Union européenne a adopté une autre stratégie, une autre directive en 2008 sur le milieu marin et qui a une approche beaucoup plus conservation, protection de la biodiversité, etc. Et du coup, on arrive en fait à un cadre de gestion qui est fragmenté et qui empêche justement de prendre en compte l'intérêt de chacun de ces acteurs. Et je pense que cette fragmentation, elle vise et elle aboutit à une cristallisation des conflits et elle ne permet pas de gérer l'ensemble de ces intérêts. Et je pense que là, il y a un rôle de nos acteurs régulateurs, de nos gouvernements et de nos politiques publiques à jouer sur cette question-là.
Et vous parliez tout à l'heure de l'impact visuel de ces éoliennes qui peuvent entraîner un certain nombre de résistances de la part de la population. Et alors, est-ce qu'une des façons de convaincre les habitants pour que ces éoliennes soient implantées, est-ce qu'une des façons, ce ne serait pas de rappeler qu'il y a des possibles retombées financières que vous évoquiez en termes d'emploi, de nouvelles installations? Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de communication à faire sur ces questions, Mathieu Colletter?
Certainement, et puis c'est vrai qu'après, est-ce qu'on trouve une éolienne jolie ou pas, c'est une question large et qui dépend un peu des goûts de chacun.
Disons qu'il y a beaucoup de résistance.
Il y a beaucoup de résistance, c'est vrai, notamment pour les personnes qui ont des maisons en bord de côte et qui, aiment bien leur vue sur la mer et donc face à ces éoliennes qui peuvent avoir des réactions un peu horrifiées. Ce qui est clair, c'est que tout le monde, de toute façon, va devoir prendre sa part dans ce développement, dans ce développement durable, cette évolution des énergies et cette évolution du mix énergétique. Après, il y a toujours cette idée de « not in my backyard », comme on dit en anglais, « pas dans mon jardin », qu'on retrouve un peu partout dans beaucoup de situations. On a des développements comme ça. Mais voilà, c'est une question encore ouverte et certainement à mieux intégrer les populations locales.
J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan de fleurs bleues au bord de la route. J'ai noyé mes yeux dedans, mais hélas, j'ai perdu trop de temps. Si j'ai perdu tout ce temps, c'est à cause d'une fleur que j'ai cueillie en pensant te l'offrir du fond du cœur. Tu m'avais dit en riant, rendez-vous au bord de la route. J'attendrai tout un printemps. Tu as dû t'en aller en pleurant. J'ai beau chercher dans mon cœur le chemin qui mène à toi. L'hiver a fané mes fleurs, tu es toujours loin de moi. Mais je te retrouverai en suivant longtemps toutes les routes qui connaissent le secret de mon cœur que je te donnerai. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route. qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route, qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. J'ai les cheveux.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était Les cheveux dans le vent par Brigitte Bardot et on parle toujours des énergies marines renouvelables avec Romain Schoum, Sylvain Roche et Mathieu Colléter. On a parlé de ces éoliennes offshore. On va parler maintenant de l'énergie marémotrice et notamment on parlait du retard français dans l'éolien offshore. En revanche, ce que vous commenciez à dire sur ce sujet, Sylvain Roche, c'est que dans le domaine de l'énergie marémotrice, qui s'appuie donc sur la dynamique des marées, la France a été pionnière avec l'usine de la près de Saint-Malo, en Bretagne. On peut dire que la France a une position particulièrement importante dans ce domaine ?
Ah oui, en effet, sur l'exploitation des courants de marée, la France est pionnière. Pendant des années, voire des décennies, on avait la plus grande installation au monde. Bon, maintenant, c'est les Coréens. Mais en effet, on a un savoir-faire indéniable.
Une installation qui a été inaugurée en 1966.
En 1967, oui, par le général de Gaulle. À l'époque, en effet, ça répondait en plus à une demande, parce que la Bretagne manque d'énergie. Et les Bretons ne voulaient pas du nucléaire, et c'est vrai qu'il fallait trouver des sources alternatives, et notamment des énergies de la mer.
Et la France possède des sites qui sont particulièrement favorables, le nord du Cotentin, la Bretagne, il y avait les sites géographiques pour cela.
Oui, on a les ressources en fait, on a les ressources naturelles, on a la technologie pour exploiter ces ressources. Donc en effet, du côté du Cotentin ou du côté des îles du Ponant, notamment à Ouessant, donc il y a des entreprises qui travaillent sur ces technologies, notamment Sabella, qui est une start-up bretonne. Voilà, actuellement, cette filière rentre en phase industrielle, une phase assez délicate, mais en effet, on a un savoir-faire indéniable pour cette technologie.
Le Canada vient d'investir 30 millions de dollars dans l'énergie marémotrice à la baie de Fundy, en Nouvelle-Écosse. On peut dire que c'est une énergie d'avenir, Mathieu Colléter, l'énergie marémotrice ?
Bonne question. Non, mais alors c'est comme toujours, c'est-à-dire que face à ces énergies, de toute façon, on a un impact environnemental. Et toute la question, c'est d'être en mesure de connaître cet impact environnemental, de le prédire, d'être à même de dire quels sont les acteurs qui vont être touchés potentiellement derrière. Et donc, les usines marémotrices ouvrent aussi des questions là-dessus, que ça soit en termes de migration. Le barrage de la Rance a été équipé, on a des passes à poissons, on a des choses comme ça. Donc, on ouvre toujours des questions aussi en termes environnementaux, en termes de continuité environnementale entre différents milieux. Et donc, quand on développe ces énergies, ce qui est clair, c'est que oui, bien sûr, il va falloir développer ces énergies en bonne intelligence, mais aussi prendre en compte les impacts environnementaux et essayer de remédier aux impacts négatifs environnementaux qu'on peut observer.
Mais 66, on commence à avoir un certain recul, Sylvain Roche.
Oui, après, il faut différencier l'énergie marémotrice, qui est le barrage, qui en effet des impacts environnementaux assez importants, et les hydroliennes, ces deux filières très différentes. Les deux exploitent les courants de marée, mais ce n'est pas du tout les mêmes impacts environnementaux. Hein. Et je pense aussi, si l'avenir ou non de ces hydroliennes, c'est aussi le coût économique. Il faut des volumes. Il faut produire des technologies, il faut innover pour faire baisser les coûts et que ces technologies émergentes deviennent compétitives face aux technologies bien installées.
La question du coût, elle est évidemment centrale. Et du côté de l'hydrolien qui capte donc l'énergie des courants marins, le bilan est plutôt mitigé.
Nous considérons que dans le mix énergétique, il y a besoin de l'ensemble des énergies. Et l'énergie hydrolienne restera une énergie concentrée dans certaines zones. Par exemple, dans la Méditerranée, il n'y a pas de marée. Tout le monde le sait. Donc on ne peut pas mettre d'hydrolienne dans la Méditerranée. Donc ce ne sera pas une énergie qui va remplacer complètement les autres. Mais nous pensons que l'ensemble des énergies marines renouvelables, parce que Naval Energy, c'est le seul acteur industriel mondial qui est sur trois technologies d'énergie marine renouvelable, les hydroliennes ici, mais aussi les flotteurs pour éoliennes flottantes, et ainsi que l'énergie thermique des mers. Nous considérons que ces trois énergies seront absolument vitales pour l'ensemble du mix énergétique dans les années qui viennent, les énergies à terre pouvant être saturées en termes de disponibilité de surface.
Le PDG de Naval Energy, Laurent Schneider, mot nourri lors de l'inauguration de l'usine hydrolienne de Cherbourg en juin dernier. Or, quelques semaines plus tard, le fabricant a jeté l'éponge à la surprise générale et c'était pour des questions de prix, Romain Schum.
Alors c'était des questions de prix en effet. Le projet a été abandonné en des temps records, en quelques semaines seulement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une impulsion ou une incitation de l'État, notamment financière, à développer ces énergies. Et je pense que dire que ces énergies marines renouvelables sont l'avenir, c'est l'avenir si on souhaite et on fait en sorte que ces énergies seront l'avenir et que chaque acteur fait preuve d'une réelle volonté pour mettre les moyens techniques, mettre l'énergie humaine et puis mettre aussi des moyens financiers sur ces questions-là. Et encore une fois, je pense que les politiques publiques ont un réel rôle à jouer pour donner ces incitations et ces signaux qui vont permettre ensuite à la filière de se développer.
Ce qu'expliquait le PDG de Naval Energy, c'est que l'hydrolien était estimé à 150 euros il y a deux ans, mais désormais le prix du kilowattheure de l'éolien et du solaire a rapidement baissé autour de 50 euros. Donc évidemment, l'hydrolien n'est aujourd'hui plus compétitif. Sylvain Roche.
Oui, en effet, l'hydrolien pâlit finalement de son prix, d'une absence aussi d'un marché national actuellement.
Alors même que cette technologie marche.
En fait. Oui, en effet, après une technologie qui marche, du point de vue technique, il faut qu'elle passe après dans une phase économique. La phase d'industrialisation, d'économisation de la filière, donc ça prend du temps finalement. Et c'est que... Actuellement, on est dans un monde ultra rapide. Même les technologies, il faut que ça aille très très vite, et les technologies n'ont pas le temps de maturer. Donc, il leur faut trouver des niches pour qu'elles puissent bien maturer. Et c'est vrai que ces technologies sont particulièrement bien adaptées au territoire insulaire.
Sur l'hydrolien, en tout cas, le PDG de Naval Energy dit qu'il n'y a pas de marché à court terme, mais pas non plus à long terme. Et on voit que les pouvoirs publics retirent leur soutien sur l'hydrolien un peu partout dans le monde, au Royaume-Uni, au Chili, aux Philippines. On peut craindre un effondrement de cette filière qui, par ailleurs, est une filière qui est quand même assez développée en France.
J'ai l'impression qu'on assiste, moi, et c'est vrai pour plusieurs secteurs, à une déconnexion un peu malheureuse entre la science et le politique. On sait scientifiquement tout l'avantage qu'on peut avoir avec ces énergies renouvelables. Les politiques, dans certains discours, en effet, font l'éloge de ces énergies, mais on a toujours concrètement des subventions pour les énergies fossiles, des subventions sur un autre sujet, mais par exemple qui est la pêche, pour certaines techniques de pêche qui sont particulièrement désastreuses. Donc, scientifiquement, on a des connaissances sur lesquelles on peut s'appuyer, mais il n'y a pas encore de relais et de concrétisation de ces données scientifiques dans la sphère politique. Et là, je pense qu'on peut s'en inquiéter, mais on peut aussi travailler, faire en sorte que ces données aient un écho dans le débat public.
Mathieu Colletter, beaucoup de discours autour de l'intérêt de ces énergies renouvelables au niveau politique, mais finalement assez peu de subventions, très concrètement.
Oui, et puis ou des subventions qui vont au mauvais endroit et vers les mauvaises pratiques, ça c'est toujours un peu le cas, que ça soit dans les énergies, que ça soit dans la pêche, voilà, on subventionne beaucoup de pratiques destructrices et on subventionne pas assez des choses qui devraient l'être. Bon, il y a des signes d'espoir, on a la première éolienne flottante, qui a été installée, qui est en cours de test, qui pourrait être quelque chose d'intéressant, notamment par rapport aux impacts de l'installation d'une éolienne, fixée au fond. Donc on peut avoir des avantages écologiques. Alors après avoir
justement, que ça change que cette éolienne soit flottante et plus posée au fond?
Eh ben ça change en tout cas tout le dérangement du milieu benthique, donc du milieu du fond. C'est-à-dire que pour installer une éolienne, on va forer, on va installer, on va créer de la turbidité, on va déranger l'écosystème marin, alors qu'une éolienne flottante, globalement, elle est reliée par des câbles. Alors les câbles peuvent gêner les opérations de pêche, mais ou les écosystèmes d'ailleurs aussi à travers l'électricité, des choses comme ça. Donc c'est peut-être une filière d'avenir qui peut répondre à certaines problématiques qu'on a actuellement sur l'éolien en dur. La première est lancée, donc à étudier, à continuer à financer pour le coup.
Il y a à l'heure actuelle à peu près 3000, je crois, éoliennes fixées au sol en offshore et seulement 4 qui sont flottantes. On voit que on en est encore au tout début. Sylvain Roche.
Oui, mais l'avantage aussi c'est le visuel, ça se voit moins. Et c'est vrai que pour des questions liées au paysage, voilà, dans un pays où quand même on a quand même notre littoral et on va dire beaucoup lié au tourisme finalement. Ça a beaucoup d'avantages. Tu sais qu'il y a un parc offshore flottant qui a été développé en Écosse par Statoil, qui est encore une fois un acteur du oil and gas, donc du transfert technologique autour du flotteur. Donc, et aussi pour moi, un enjeu important, c'est l'enjeu économique. Je veux dire, actuellement, il n'y a pas d'entreprise leader. Donc, si on veut construire une filière nationale, on est plutôt bien positionné. Je veux dire, encore sur le posé, c'est compliqué, parce que bon, il y a les acteurs de la mer du Nord qui y sont. Sur le flottant, actuellement, voilà, bon, ça bouge, hein, du côté du Japon, tout ça. Bon, la France est bien positionnée. On a vraiment des grands acteurs qui y sont, on a un savoir-faire, des compétences clés. On peut y aller.
Les acteurs de la filière des énergies marines renouvelables attendent de savoir, en tout cas, si l'État va ou non lancer un appel d'offres pour mettre en place des fermes commerciales hydroliennes. Pourquoi est-ce que ces appels d'offres sont aussi importants pour la filière d'un point de vue économique, Sylvain Roche?
Mais pour la faire maturer, tout simplement, une technologie, au départ, elle est forcément chère, c'est normal. C'est de l'innovation pure, donc il faut lui laisser le temps qu'elle émerge et aussi qu'elle s'adapte à son environnement.
Le coût d'entrée est trop important aujourd'hui pour les acteurs économiques traditionnels dans les énergies renouvelables.
Actuellement, on ne peut pas concurrencer, encore une fois, les technologies beaucoup plus matures que sont à la fois le nucléaire classique et aussi les autres sources d'énergie renouvelable. Donc il faut leur trouver une niche et ce qu'on appelle en économie lancer la courbe d'apprentissage. Ça veut dire que petit à petit, les coûts baissent, les volumes augmentent et ces énergies deviennent compétitives face aux énergies, encore une fois, bien installées.
Et alors, comment les acteurs de la filière maritime se sont organisés, justement, pour peser dans les négociations avec le gouvernement? Il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont mobilisés, Sylvain Roche.
Ah oui, en effet, il y a des structures comme les réseaux professionnels, par exemple, les associations comme le cluster maritime français, le CER, la FE, le GICAN, tout ça, qui œuvrent réellement déjà pour structurer la filière, mettre en réseau, en synergie les acteurs. Donc chaque année, il y a des grands événements qui se réalisent à l'échelle européenne. Encore une fois, l'agenda européen est très important. Et aussi au sein du territoire national, où ils échangent les bonnes pratiques, les savoir-faire, les difficultés aussi que peut connaître cette filière. Et petit à petit, ils essaient aussi de construire des projets en commun. Donc,
Par ailleurs, est-ce que ces énergies marines renouvelables sont si vertes que cela? Selon l'association Robin des Bois, les éoliennes offshore sont une menace pour les oiseaux, les mammifères marins, les poissons. C'est ce qu'on constate aujourd'hui, Mathieu Colletter?
Il y a beaucoup de questions là-dessus et c'est vrai qu'au niveau scientifique, on est encore encore assez faible, en tout cas sur la question des éoliennes offshore. Il y a des études qui commencent à être faites, il y a des études qui disent par exemple qu'il y a des moules qui s'installent ensuite sur l'éolienne, donc ça crée une chaîne alimentaire et donc ça recrée de la vie, etc. Quels sont les impacts dans le temps? C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être sur 10 ans un système qui se remet, qui se rétablit, une résilience de l'écosystème, mais dans les...
Pour les mammifères marins, on dit que les impacts seraient plus importants sur la phase de construction, mais que par la suite, ça serait même bénéfique, comme vous dites, il y aurait des récifs artificiels qui se créeraient.
Ouais, c'est vrai qu'il y a différents messages qui circulent en tout cas sur ces éoliennes. C'est dur d'avoir un recul scientifique certain. Sur les oiseaux marins, il y a quand même des études qui montreraient que ça serait potentiellement, alors peu important, qu'on est capable de moduler, en tout cas de placer ces éoliennes, pas sur les routes de migration en tout cas. Donc voilà, et puis de réguler un peu l'activité aussi selon l'activité des oiseaux en jour, en nuit. Donc voilà, il y a des moyens en tout cas d'essayer de remédier à ces impacts environnementaux. Il y a aussi moyen de mieux les connaître et donc d'avoir plus de recherche qui est faite directement. Mmh. En Angleterre, les pêcheurs ont des vécus différents. En France, les pêcheurs ont des vécus différents. Et c'est là aussi, il faudrait qu'on ait plus de concertation à l'échelle européenne, à l'échelle française et à l'échelle européenne pour nourrir les différentes réflexions et puis une recherche qui est vraiment à accentuer sur ces impacts.
Plus de concertation au niveau européen, Romain Schoum.
Plus de concertation et puis sur cette question en effet de lien entre transition énergétique et impact sur la biodiversité. J'ai des collègues à l'EDRI qui ont travaillé précisément sur cette question-là. Alors c'était plus sur la biodiversité terrestre, ils les ont qualifiés de liaisons dangereuses. Et en effet, on se rend compte que quand les énergies nouvelles se développent, c'est une très bonne chose, mais il y a beaucoup d'impacts qu'on ne connaît pas encore, qu'on a du mal à mesurer. Et qu'il faudra prendre en compte. Donc je pense que la question va être en effet d'assurer une concertation et d'avancer en ayant tous ces enjeux différents en tête. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut quelque part se souvenir aussi de ce fameux principe de précaution, c'est-à-dire il va pas falloir attendre qu'on sache exactement quels sont les impacts pour agir. Et donc ce qu'il faudrait éviter, c'est que cette filière et ces filières économiques se développent et qu'on réfléchira après aux impacts. C'est dès maintenant il faut s'alerter et être sûr d'avoir tous ces enjeux bien en tête pour développer la filière.
Parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette image d'énergie marine renouvelable comme nécessairement verte et on se rend compte, Gilles Maroche, que c'est plus compliqué que ça en réalité.
Oui, mais de toute façon, toutes les énergies, enfin, il n'y a aucune énergie miraculeuse. Il faut, dans l'énergie, il faut raisonner en termes de gris, je veux dire, pas en termes de blanc ou de noir. Toutes les énergies ont leurs avantages et leurs inconvénients. Au sein même des filières, hein, l'hydrolien, ça ne se voit pas, c'est sous l'eau. L'éolien, offshore, ça se voit. Donc, après, il faut voir. Disons, on a signé des directives à Bruxelles, quand même, où on doit développer les énergies renouvelables. La loi sur la croissance verte est assez ambitieuse pour développer les énergies renouvelables. Si on veut faire baisser le taux de production électrique nucléaire en France, donc il y a aussi une temporalité de l'urgence qui nous oblige aussi à développer les énergies renouvelables. Donc il va falloir aussi concilier des agendas qui ne sont pas forcément consignés ensemble. Mais c'est pas évident, c'est sûr, c'est pas évident.
Il faudrait que l'État mette en place des logiques d'incitation, de désincitation, c'est ça qui pourrait marcher?
Oui, mais l'État actuellement travaille sur ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle doit être présentée dans les prochaines semaines par le nouveau ministre de l'Environnement. Et là, on sera un petit peu fixé sur finalement quelle est la vision politique de la transition énergétique en France.
Au début du mois, Édouard Philippe a annoncé que la part du nucléaire dans l'énergie diminuerait et tomberait à 50% en 2035 et non plus en 2030. On voit que ça ne cesse de reculer. On manque encore d'une volonté politique suffisante, d'un choix politique clair en faveur des énergies renouvelables. Mathieu Colletter.
Il est clair qu'on est aujourd'hui à la croisée des chemins et qu'il va falloir prendre des décisions et des décisions fortes. Et pour l'instant, c'est vrai que la volonté gouvernementale, alors sur le thème de l'énergie, est un peu de reculer. Je pense que la démission de Nicolas Hulot a été un signal fort, notamment quand il dénonçait le poids du lobby du nucléaire en France, qui est toujours très présent, et qui va retarder immédiatement. On a aussi le MEDEF, dont on a lu dernièrement qu'il avait des plans pour contrer les différentes directives européennes qui allaient vers justement cette transition énergétique et vers ces mieux-disant écologiques. Donc voilà, toutes ces questions sont ouvertes et on attend une présence forte du gouvernement, une action forte du gouvernement en faveur de l'écologie, en faveur d'une transition énergétique qui prend en compte ces dimensions économiques, environnementales et sociales.
Romain Choum, on arrive presque au terme de cette émission. Il faut un choix politique clair.
Il faut un choix politique clair et pour en revenir au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'économie bleue, je pense que justement ça peut être une opportunité. C'est-à-dire de se questionner tous les modèles économiques, tous les modèles de production et de consommation qu'on a eu jusqu'ici et qui ont des impacts considérables sur l'environnement et sur l'état de santé de nos écosystèmes et des êtres humains. Et utiliser justement ce concept d'économie bleue pour voir si les activités en mer, on ne peut pas les organiser et les gérer de manière rationnelle, de manière intégrée et prendre en compte tous les enjeux.
Donc pour conclure, Sylvain Roche, on peut dire que ces énergies marines renouvelables auront nécessairement un rôle dans cette transition énergétique. Toute la question, c'est de savoir jusqu'à quel point.
Tout à fait. C'est sûr que là, moi, je pense que l'avenir est quand même, en France, sera, on va vers le tout solaire et le tout offshore. Ça, c'est on y va, que ce soit le plan assez ambitieux qui a été porté par EDF, qui vise à développer en grande quantité l'énergie solaire. Et c'est que les grands parcs, ça a l'avantage de produire des quantités assez importantes d'électricité. Après, l'enjeu, c'est le coût. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dernièrement, il y a eu une remise en question des prix de l'appel d'offres de l'éolien en mer, donc qui a baissé de près de 40%. Donc finalement, la filière a survécu à cette séquence politique de remise en question des prix. Et c'est une filière finalement qui gagne aussi en crédibilité. Nicolas Hulot le mentionnait bien, maintenant avec ce nouveau tarif d'achat, qui est à peu près à 150 euros le mégawattheure, si mes souvenirs sont bons, je vais pouvoir défendre cette filière dans la PPE. Donc c'est aussi, je pense que l'avenir, c'est les énergies marines renouvelables, mais il faut leur laisser le temps de se développer et de maturer, notamment pour les technologies les moins matures.
Et l'éolien offshore, pour conclure, Mathieu Colletter, on peut dire que c'est le principal espoir dans ces énergies marines renouvelables?
En tout cas, c'est celui qu'on développe pour le moment le plus et sur lequel on a eu le plus. On a un recul déjà puisqu'on a un certain nombre de projets qui ont été lancés, alors pas forcément aboutis, mais qui ont été lancés. Donc c'est clair que on a un curseur sur cette énergie. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas non plus, il faut pas ignorer les autres énergies et puis les réalités locales. C'est-à-dire quelle énergie à un niveau local va mieux le correspondre à la fois à l'environnement, aux besoins de la population, etc., etc., et aux conditions environnementales présentes sur place. Donc pour le moment, on a l'éolien flottant qui se développe et qui peut être véritablement une énergie intéressante pour l'avenir. Voilà.
On verra ce que la recherche et la volonté politique permettront de faire émerger. Merci beaucoup à tous les trois. Il est 14h50 sur France Culture. C'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Alors que le président Macron se rend aujourd'hui aux Antilles, vous avez choisi de revenir sur une substance qui empoisonne la vie de ces îles.
Oui, c'est un poison qui s'écoule depuis la cime des arbres, glisse sur les feuilles de bananiers et s'infiltre dans les sols de Guadeloupe et de Martinique, avant de fuir et de se propager encore suivant le cours des eaux. Cette molécule toxique, répondant au nom barbare de chlordécone, a été massivement utilisée entre 1972 et 1993 afin de protéger les plantations de leur ennemi, le charançon. C'est donc par milliers de litres que ce pesticide a été déversé sur les cultures antillaises afin d'assurer récolte et prospérité.
Les Antilles qui sont désormais contaminées pour des siècles.
Oui, car la molécule est très persistante. Selon les spécialistes, elle peut survivre jusqu'à 700 ans. Il faut dire que l'on a découvert au début des années 2000 que le chlordécone avait non seulement infecté les sols, mais aussi les rivières et une partie du littoral marin. On retrouve donc cette substance dans les poissons et crustacés, mais aussi dans les fruits, légumes consommés chaque jour par les Antillais. Avant les langoustes, ce sont les rougets, brochets, ignames et patates douces qui ont été déclarés impropres à la consommation. Par une triste ironie du sort, la banane, elle, reste comestible. Aujourd'hui, plus de 90% des habitants de Guadeloupe et de Martinique sont contaminés par la molécule toxique avec des conséquences sanitaires terrifiantes. Les deux îles connaissent ainsi le plus fort taux de cancer de la prostate au monde. Pour vous donner une idée, ce type de cancer est deux fois plus fréquent aux Antilles qu'en métropole. Ce poison qui se transmet essentiellement par voie alimentaire touche même les bébés en gestation. Les études menées montrent que le chlordécone augmente le risque de prématurité, mais qu'il a aussi des effets négatifs sur le développement cognitif et moteur des nourrissons.
On connaissait pourtant le potentiel nocif de ce produit.
Oui, bien sûr, des 1979, l'Organisation mondiale de la santé classe le chlordécone comme un agent cancérogène, un neurotoxique et un réprotoxique. Deux ans plus tôt, les États-Unis bannissaient l'usage du perturbateur endocrinien et fermaient l'usine de production du pesticide après avoir établi que les ouvriers travaillant sur le site avaient développé des troubles neurologiques et testiculaires du fait de leur exposition prolongée. En France métropolitaine, il faut attendre 1990 pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités en interdisant le produit. Et ce n'est qu'en 1993 que le chlordécone est banni des plantations antillaises. Sous la pression des lobbies, les gouvernements successifs ont continué d'autoriser un produit dont on connaissait pourtant l'impact désastreux sur la santé.
Certains parlent même d'un scandale d'État.
Oui, c'est le cas notamment de l'eurodéputé Éric Andrieux qui préside la commission spéciale du Parlement européen sur les pesticides et qui explique que la France a même demandé des dérogations auprès de l'Union européenne afin de continuer à utiliser les pesticides aux Antilles. Mais on aurait tort de croire que cette histoire a provoqué un électrochoc chez nos gouvernants. En 2016, la France a effectué pas moins de 58 demandes de dérogation contre 10 en moyenne chez les autres pays européens. Comme bien souvent, l'histoire bégaye et les nouvelles menaces identifiées pour notre santé continuent d'être épandues sur nos champs sans que cela ne provoque de véritables remous.
En témoigne la tentative infructueuse de faire passer un amendement visant à l'interdiction du glyphosate.
Exactement, porté pourtant par un élu de la majorité, cette proposition prévoyait la fin de l'utilisation du glyphosate en France d'ici à 3 ans, tout en conservant la possibilité de dérogation pour que les agriculteurs ne pâtissent pas trop violemment de cette interdiction. Elle permettait surtout de tracer un chemin clair vers la sortie du glyphosate à moyen terme. L'amendement a cependant été torpillé par un rapporteur et un ministre de l'Agriculture, invoquant inexorablement les mannes du développement économique. Une posture qui révèle surtout le manque de volonté du gouvernement face à la toute-puissance des lobbies et l'incapacité à inventer un modèle qui préserve les intérêts des agriculteurs comme la santé des Français.
Merci beaucoup Arjuna Andrade. Et à vos côtés se trouve également Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et on commence par le chiffre du jour.
Oui, c'est 4,4. C'est le nombre de tonnes de marchandises qui sont entrées ou sorties des ports français pour chaque habitant de l'Hexagone en 2016. La France ne se classe ainsi que 18e en Europe sur les 24 pays de l'Union qui ont accès à la mer, alors qu'elle possède les deuxièmes eaux internationales du monde derrière les États-Unis. Nous sommes très loin derrière les 25 tonnes des Néerlandais ou les 19 tonnes des Finlandais. Le premier port français, celui de Marseille, a vu passer en 2016 6 fois moins de marchandises que le port de Rotterdam aux Pays-Bas, mais aussi 22% de marchandises en moins que 10 ans auparavant en 2006. Le Havre et Dunkerque, les deux autres grands ports français, sont sur la même pente descendante.
D'où vient que la France se détourne de la mer au moment même où, au contraire, du fait de la mondialisation, le transport maritime a connu un essor formidable ?
C'est une longue histoire. On met souvent en cause la responsabilité de la CGT en particulier. Les dockers qui chargent et déchargent les bateaux dans les ports sont en effet une des seules professions, avec les ouvriers du livre, où la CGT avait obtenu au siècle dernier le monopole des embauches. Pour devenir docker, il fallait être mis à disposition par elle, à la disposition des entreprises du secteur, ce qui a entraîné des embauches de complaisance et freiné la modernisation du secteur quand le trafic des conteneurs s'est développé. Cette indispensable modernisation a conduit en effet à des conflits sociaux récurrents qui ont détourné le trafic des ports français. L'affaire va cependant bien au-delà. Le trafic maritime hexagonal était étroitement lié à nos aventures coloniales, dans une relation par nature prédatrice avec les pays avec lesquels la France commerçait. Et beaucoup des acteurs du secteur, habitués à gagner des marchés abrités derrière les canons des soldats français, n'ont pas su prendre le virage de la décolonisation et de la mondialisation, où les affaires se négocient très différemment, même si le secteur compte encore quelques acteurs majeurs comme CMA-CGM ou le groupe Louis Dreyfus, bien qu'il soit désormais basé aux Pays-Bas. À quoi s'ajoutent de lourdes questions d'aménagement du territoire dans un pays qui, après la période coloniale, s'est largement détourné de ses côtes pour se tourner vers l'Europe continentale dans le contexte de la construction européenne. Les principaux ports français ne disposent pas en effet de possibilités d'irriguer aisément le reste du continent comme les ports néerlandais grâce au Rhin. Marseille peut difficilement desservir l'Italie et le nord de l'Europe en l'absence de canal entre le Rhône et le Rhin en particulier. Le Havre est assez mal relié en termes de desserte ferroviaire, de même que Dunkerque, dans un contexte où, de toute façon, le fret ferroviaire est laissé largement à l'abandon en France.
Et alors, Guillaume, est-ce qu'un tel déclin est irréversible ?
La tendance est très lourde et ceux qui ont cherché à l'inverser au cours des dernières décennies ont échoué. Mais l'avenir de l'Europe va se jouer beaucoup, on le sait, de l'autre côté de la Méditerranée et en Afrique subsaharienne au cours des prochaines décennies. Du fait de ses liens anciens avec ces pays, la France aurait une carte à jouer dans ce futur. Et cette carte devrait nécessairement passer par ses ports et la volonté de redevenir un pays ouvert vers le monde via les mers.
Par Morshiba. Merci beaucoup Romain Choum, chercheur associé à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Sylvain Roche, doctorant en économie de l'innovation à l'Université de Bordeaux et Mathieu Colletter, docteur en écologie marine à l'association Bloom. Merci à tous les trois. Vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.